C'est exceptionnel, hein. Rassurez-vous, vous allez encore me voir, malheureusement, pendant, heureusement, je ne sais pas, pendant une heure. Non, non. C'est un concours de circonstances. Voilà, mais ce n'est pas habituel en général. J'appréhendais que Damien soit coincé sur le chantier en Espagne et de devoir aussi présider. Mais ça aurait été un peu le one-man show. Ouais. Oui, Farid, je ne sais pas si tu l'as dit, Farid est à Montpellier. Tu en as peut-être parlé au début, je ne sais pas. Farid est à Montpellier, il y a une nomination d'ancien, la nomination de Paul Norcock. Donc il est allé encourager l'Église et puis prier aussi voilà, pour cette nomination pour Paul et son épouse. Eh bien, on va y aller. J'avais à cœur de vous parler de l'Église ce matin. De vous parler de l'Église. Et puis, on va s'appuyer pour ça sur un texte dans l'Évangile de Jean. La prière de Jésus, Jean 17. Et on va regarder au travers de cette prière comment est-ce qu'il voit l'Église. Alors, pour la plupart des gens, l'Église, ben, ça peut évoquer différentes choses, hein, selon leur culture, selon leur vécu, leur rapport à la foi. Ça peut être un lieu de culte, un bâtiment où on prie, un espace de paix, de silence. Pour d'autres, ça va être une institution religieuse ou un héritage du passé. Pour d'autres encore, ça peut être une source de souffrance, de douleur ou de déception, un espace d'exclusion. Et pourtant, l'Église n'est pas du tout ça, enfin, n'est pas le bâtiment. Quand bien même, on dit, je ne sais pas si vous le dites, mais nous allons à l'Église, on va à l'Église, ce soir on va à l'Église, nous allons à l'Église. Mais quand bien même on dit ça, l'Église, bien sûr, vous le savez, n'est pas ce bâtiment. Mais elle est constituée de toutes les personnes qui ont accepté de donner leur vie à Jésus et de le suivre. Vous et moi, l'Église, c'est vous, c'est moi, quand nous nous sommes rassemblés au culte, quand nous sommes rassemblés en groupe de maison, quand nous sommes en action, quand on est en groupe, quel qu'il soit, c'est l'Église. L'Église, elle est au cœur du plan de Dieu pour le monde. Jésus a passé une grande partie de son ministère à la former, à la préparer. Et il va même prier pour elle, pour ses disciples et ceux qui croiront par leurs paroles. Et quand il dit ça, ben ça veut dire vous et moi, hein, chacun d'entre nous. Et on va lire cette prière de Jean 17 et essayer de comprendre ce que l'Église est pour Jésus, ce qu'elle doit être, et donc ce que nous sommes appelés à être en tant que disciples de Jésus-Christ. Donc si vous avez oublié, on va lire chapitre 17 à partir du verset 6 jusqu'à la fin du chapitre. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je parle ainsi dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, Mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Waouh. Merci Seigneur. Merci pour ces mots que tu as priés. Je te prie de nous parler, Seigneur, à chacun ce matin. Que ta parole pénètre nos cœurs, que ta parole pénètre notre intelligence. Révèle-nous ce que tu veux nous dire ce matin, Seigneur. Parle-nous. Nous ne voulons pas repartir sans avoir reçu de ta part, Seigneur. Merci parce que ta parole est vivante et parce qu'elle agit dans nos vies, parce qu'elle nous forme. On veut s'y soumettre, Seigneur. On veut l'écouter, on veut l'accueillir et on veut s'y soumettre. Amen. L'Église, elle est au cœur du plan de Dieu. C'est presque les derniers instants de Jésus. Il est sur le point de mourir. Il va bientôt partir, donner sa vie et il va être cloué sur la croix. Et Jésus, il prie presque ses dernières paroles. Vous savez, quand on est sur le point de mourir, des fois on a des dernières paroles à prononcer. Et pour la plupart des personnes, quand la fin approche, eh ben, c'est les choses les plus importantes qui comptent à ce moment-là. Les derniers mots, elles sont pour ceux qui sont importants. Une époux, une épouse, des enfants, un frère, une sœur, des amis, des parents. Et pour Jésus, c'est l'Église. C'est ses disciples. Une communauté de disciples qu'il a formés et qui va rester dans le monde alors que lui, il va s'en aller. Et c'est la raison pour laquelle Jésus prie pour eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous tous, comme nous. Cela nous montre quelque part à quel point l'Église, elle compte pour Jésus. Il est passionné pour elle, elle a du prix à ses yeux. Et donc il prie pour elle à cet instant spécifiquement pour elle, car elle reste dans le monde. Et elle est même envoyée par Jésus dans le monde. De la même manière que le Père a envoyé Jésus dans le monde. Vous savez, cette image du relais, le relais olympique sur la piste, un coureur, il transmet le témoin. Et toute la course, elle dépend de ce court instant, le moment où on passe le relais. Et quelque part, dans le chant 17, c'est comme s'il y avait ce passage de témoin entre Jésus et ses disciples. Je m'en vais, mais vous allez rester. Le Père m'a envoyé, mais maintenant c'est moi qui vous envoie. Je vous envoie dans le monde. Il y a ce passage. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et cette communauté de disciples va maintenant rendre témoignage à Dieu sur la terre de la même manière que Jésus rendait témoignage à Dieu. Jésus proclamait la vérité. L'Église, elle doit proclamer la vérité. Elle doit rendre témoignage à Dieu. Jésus transforme les vies. L'Église transforme les vies. Jésus guérit les malades, chasse les démons. L'Église doit guérir les malades, chasser les démons. Jésus va vers les exclus, les rejetés. L'Église doit aller vers les exclus, les rejetés. Et bien d'autres choses encore. C'est ce que cela veut dire en pratique pour nous aujourd'hui. Jésus est le modèle suprême de la mission de l'Église. Et quand je lis ce texte, quand je comprends ce qui est en train de se passer, je vois que l'Église, ce n'est pas une option. Elle n'est pas optionnelle, elle est essentielle dans la vie du chrétien. Si pour Jésus, à la fin de sa vie, elle était ce qui comptait le plus pour lui, alors elle est d'une importance capitale dans la vie du chrétien. Comme je l'ai dit, Jésus, il a passé une grande partie de son ministère à la bâtir. À bâtir l'Église, un corps qui va rendre témoignage à Dieu dans ce monde. Alors peut-être on pourrait être tenté de dire, et c'est pas forcément faux, que l'Église n'est pas parfaite. Alors que Jésus, il était en toutes choses. Mais elle reste cependant au cœur du plan de Dieu pour le monde. Donc j'aimerais commencer par te dire ce matin, si tu aimes Jésus, si tu veux le suivre, tu ne peux pas ne pas t'y attacher à l'Église. Et tu ne peux pas ne pas y être profondément investi. Elle ne peut pas être une option dans ta vie qui vient après d'autres préoccupations que nous avons tous. Même si ça commence à dater, les années Covid nous ont donné de nouvelles habitudes de vie dont on a du mal à se défaire. et qui ont pour beaucoup fait que l'Église devienne secondaire. J'ai des amis qui ont cessé d'aller à l'Église pendant le Covid et qui n'y sont pas retournés. D'abord de manière très hypothétique et puis qui ont pris des distances. L'Église ne doit pas être secondaire, elle doit être prioritaire dans nos vies. Pour beaucoup, c'est d'abord je dois prendre du plaisir, profiter de la vie. L'Église, ça sera si jamais j'ai envie, si j'ai le temps. Mais j'ai envie de te dire ce matin, si tu crois ça, si tu penses ça, tu fais fausse route. Car l'Église, elle n'est pas optionnelle. L'Église, elle est vitale, elle est capitale. Elle est au cœur du plan de Dieu. Et l'Église, ce n'est pas que le dimanche matin quand on se rassemble. L'Église, c'est toute la semaine. C'est nous tous. Quand on se rassemble dans des groupes de maison, quand on se rassemble en groupe de gars, en groupe de filles, en groupe de femmes, pardon. Quand on sort pour aller au Prada, quand on sort pour aller évangéliser, toutes ces choses qu'on fait, c'est l'Église. Et j'ai envie de commencer par te poser une question ce matin, c'est où est-ce que tu en es de ce relais ? Jésus, il a tendu ce bâton, je t'envoie. Si tu es disciple de Christ, si tu es disciple de Jésus, il t'a tendu ce bâton. Est-ce que tu l'as saisi ? L'Église est au cœur du plan de Dieu. Je vais citer plusieurs points comme ça, de ce que je comprends, de ce que, au travers de la prière de Jésus, de comment est-ce que Jésus voit l'Église. Il parle de ses disciples, mais ses disciples, c'est l'Église. L'Église, elle est sanctifiée. Les versets 17 à 19 nous disent « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. » Ici, le terme « sanctifié », il signifie littéralement « être mis à part, consacré ». Mis à part, consacré pour le travail de Dieu. Aaron et ses fils étaient sanctifiés, ils étaient consacrés, mis à part pour être des prêtres. Jésus, il a été mis à part pour accomplir sa mission, mourir pour sauver les hommes. Et les disciples, ils sont à leur tour mis à part, sanctifiés, pour servir Dieu et accomplir sa mission. Nous avons été mis à part, consacrés, pour entrer dans la mission dans laquelle Jésus nous appelle. Et ça passe par la parole qui nous transforme. Il y a ce verset qui dit « Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. » La parole, c'est important de la comprendre, c'est important de l'étudier, c'est important de la mettre en pratique dans nos vies. Cette vérité, oui, c'est la parole de Dieu, elle est absolue, elle est intangible, elle est complète, elle est éternelle. Et puis Jésus dit aussi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Jésus, il se donne. Là, il se prépare à son ultime sacrifice, mourir pour nous. Et je dirais, sa sanctification, elle n'est pas liée à un péché à purifier, car Jésus, il est sans péché. Mais elle est une offrande volontaire pour que nous soyons sanctifiés et donc rendus aptes à servir Dieu, à entrer dans cette mission. Et donc, c'est cette consécration, cette sanctification de Jésus qui rend possible notre consécration. Et sa mission doit de servir de modèle à la nôtre. Ensuite, l'Église, elle est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. On est mis à part pour la mission de Dieu dans le monde. On est invité à partir à sa rencontre, à s'y mêler, dans l'objectif de faire des disciples de Jésus. Il ne s'agit aucunement de se retirer du monde. Certains ont cru à un moment donné qu'il fallait qu'ils se coupent, des relations coupent du monde et qu'ils restent en vase clos, mais ce n'est pas du tout ce à quoi Jésus nous appelle. Bien au contraire. Et c'est pour ça que Jésus prie pour nous, pour que nous soyons gardés du malin, parce qu'il nous envoie dans ce monde. Mais on est distinct. L'Église, elle a une culture différente de celle qui l'entoure. Elle est radicalement différente, ou du moins, elle devrait l'être. Au verset 9, Jésus nous dit, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Alors Jésus dit, je ne prie pas pour le monde ici. Ça ne veut aucunement dire qu'il n'aime pas le monde. Hein. Vous connaissez ce verset Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Mais là, ici, à cet instant précis, avant de mourir, sa prière, elle est pour les siens. Pourquoi l'Église, elle est distincte du monde ? Parce que Jésus dit, parce qu'ils sont à toi. Parce que nous sommes à lui. Nous sommes à Dieu. C'est ce qui fait de vous et moi quelqu'un de radicalement différent dans ce monde. Paul, il écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 6 et verset 20, « Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Tu appartiens à Dieu. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Comprenez l'idée ? Si tu es chrétien, tu ne t'appartiens plus, mais tu lui appartiens. Et honnêtement, c'est à contre-courant de la pensée très individualiste de notre société qui défend l'idée que nous appartenons à nous-mêmes. Hein. Nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous devons être maîtres de nous-mêmes, libres d'être qui on veut être. Eh bien, sache ce matin que si tu as donné ta vie à Jésus, si tu l'as accepté comme Sauveur Seigneur, tu ne t'appartiens plus, mais tu lui appartiens. Et ça doit changer plein de choses dans ta manière de vivre, dans ta manière de gérer ton argent, dans ta manière d'éduquer tes enfants, dans ta manière de faire des affaires, ton travail, dans ta manière d'utiliser ton temps, dans ta manière de gérer tes relations. Les versets qui précèdent 1 Corinthiens 6, 20, ça concerne particulièrement les relations sexuelles hors mariage. En résumé, les chrétiens ne doivent pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage, car ils ont été rachetés à grand prix et leur corps appartient à Dieu. Et la pensée individualiste du monde et aux antipodes de cela. Dans les films, dans les séries, les réseaux sociaux, on est littéralement matraqué de cette idée que je suis libre d'avoir des relations intimes avec qui je veux. Après tout, c'est mon corps, c'est ma vie, c'est ma décision, c'est mon libre arbitre, c'est ma responsabilité. Et en résumé, ça veut dire, je veux quelque chose de toi, mais je ne me donnerai pas tout entier à toi, car mon corps m'appartient. Si tu es à Dieu, alors tu dois refléter l'image de Dieu dans la façon dont tu gères aussi ta sexualité. Et donc, tu n'as pas de relation sexuelle avec la personne, qu'avec la personne à qui tu t'es donné entièrement dans le cadre du mariage. Pas avec quelqu'un d'autre. Pas au travers d'images sur ton ordinateur ou ton téléphone. Si ton corps t'appartient, tu es du monde. Si Dieu y habite, alors tu appartiens à Dieu. Et cette manière de vivre, elle est incompréhensible pour le monde dans lequel on vit. Si vous parlez de ça à vos collègues de boulot, ils vont croire que vous débarquez d'une autre planète. J'ai un fils qui en a fait l'expérience. Si vous comprenez que vous lui appartenez, la manière dont vous utilisez l'argent, la manière dont vous allez gérer le pouvoir, la sexualité sera différente. Car si nous reflétons la société qui nous entoure, nous ne sommes pas comme Jésus veut que nous soyons. Nous lui appartenons et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas du monde. Et j'avais envie de vous donner une image, l'image d'une nage à contre-courant. Je trouve qu'elle parle assez bien de l'influence que le monde peut avoir sur nous. Est-ce que vous avez déjà nagé à contre-courant ? Dans une rivière, dans un lac, un lac qui n'a pas trop de courant en général, mais ou à la mer, quand il y a des vagues. Pas si simple, surtout quand le courant est fort. Mais que se passe-t-il quand vous vous arrêtez de nager ? Quand vous vous arrêtez de nager, est-ce que vous restez là où vous êtes ? Vous êtes emporté. Vous ne restez pas à votre place. Et c'est ce qui se passe quand vous baissez la garde et que vous ne travaillez pas à être comme Jésus veut que vous soyez. Quand vous baissez la garde, quand vous cessez de nager, vous êtes emporté. Et si vous arrêtez de conformer à ce que Dieu veut que vous soyez dans ce monde, vous allez être emporté. Et ça fait des dégâts considérables dans les vies. Ça fait des dégâts considérables dans les familles. Nous devons nager, nous devons résister. Jacques nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. » On est appelé à être différent du monde car nous ne sommes pas du monde, nous appartenons à Dieu. Et la deuxième chose à laquelle j'aimerais t'inviter ce matin, peut-être, c'est identifier un domaine dans ta vie où le monde t'a emporté. Et de le remettre à Jésus. Farid souvent nous rappelle ce proverbe 23 au verset 10 qui nous dit « Ne déplace pas la borne ancienne ». Des fois, on fait des écarts qui nous semblent tolérables, on déplace la borne. Et puis on déplace la borne, et puis on va un peu plus loin, on déplace la borne. Puis on déplace la borne, et à un moment donné, on perd totalement nos repères. Et c'est là que les situations peuvent devenir dramatiques. Donc l'Église, elle est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. L'Église, elle est unie en Dieu, Père et Fils. Les versets 20 et 23 nous disent ceci, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé, Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comme les poupées russes, hein. Jésus y prie à cet instant précis pour l'unité de ses disciples, de son Église, pour qu'elle soit comme l'unité entre le Père et le Fils. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Et ça me touche qu'à cet instant, Jésus y prie pour ça. S'il prie pour cette unité, c'est qu'il y a un enjeu et il le sait. Il se préoccupe de ses disciples alors qu'il va bientôt les quitter. Jésus l'a répondu un jour à Philippe qui le questionnait sur le Père. Jésus lui a répondu, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et l'unité entre le Fils et le Père, elle est telle qu'en regardant Jésus, je vois le Père. En écoutant Jésus, j'entends les paroles du Père. En goûtant à l'amour de Jésus, je goûte à l'amour du Père. Une unité complète, parfaite. Et Jésus dit qu'il nous a donné la gloire que le Père lui a donnée afin que nous soyons un, comme eux. Et la gloire ici, ce n'est pas une gloire terrestre, comme la richesse ou la renommée, mais c'est la présence de Dieu et la vie de Dieu, c'est son amour, c'est sa puissance, c'est sa sainteté. Jésus, il a reçu cette gloire de son Père et maintenant il la transmet à ses disciples, il nous la transmet. Et cela signifie que par l'union avec Christ, nous participons déjà en partie à sa vie divine et à la mission de Jésus. C'est la présence et la vie de Dieu en nous qui nous unit les uns aux autres et à Dieu. Moi en eux et toi en moi. Christ en nous, le Père en Christ, parfaitement un. Ça nous dépasse, hein ? Et il y a un but à cela. Jésus ne vise pas seulement une unité spirituelle ou invisible, mais une unité visible. Il nous dit « afin que le monde croie ». Cette unité, elle témoigne au monde que Christ a été envoyé par Dieu. Elle témoigne au monde de sa divinité. Elle témoigne que son message est vrai, qu'il est bien le seul chemin vers Dieu. Elle témoigne de l'amour de Dieu pour le monde. Jésus, il a dit « que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé ». Dieu nous a aimés comme il a aimé le Fils. Dieu nous a aimés comme il a aimé le Fils. Jésus nous appelle à cette unité visible. Si nous avons Christ en nous, nous marchons à sa suite. Nous mettons en pratique ses paroles. Nous avons sa présence en nous. Nous sommes unis en lui. Nous sommes un avec le Fils et avec le Père pour que le monde croie. C'est l'objectif, pour que le monde croie. Donc l'Église, elle est unie en Dieu. L'Église, elle glorifie Jésus. Au verset 10, il nous est dit, « Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Notre mission, on l'a déjà dit, c'est de manifester la gloire de Dieu, sa présence, sa vie sur la terre. C'est de montrer la beauté et la gloire de Jésus. Et comment on fait cela ? Comme Jésus. Être de bonnes personnes respectueuses, qui viennent en aide aux personnes dans le besoin, ça ne suffit pas. Le monde sait très bien faire ça. Il y avait quelque chose d'inexplicable qui accompagnait Jésus. Son enseignement, il interpellait, et même les plus érudits de son époque. Ses miracles, ses guérisons, ses délivrances, elles accompagnaient son ministère. Il y avait quelque chose d'inexplicable. Au début du livre des Actes, on voit les disciples être des prédicateurs puissants qui guérissent et qui délivrent beaucoup de personnes. Ils résistent dans leur foi face à la persécution. Ils développent des stratégies pour structurer et pour développer l'Église. Alors qu'honnêtement, si on regarde un peu plus en arrière, aucun d'eux n'a fait de fac de théologie, ni n'est né leader. Ils se disputaient, ils avaient des querelles, ils avaient des soucis pour communiquer. L'un d'eux a même renié Jésus. Il y a quelque chose d'inexplicable ici. Quelque chose de surnaturel. Nous glorifions Christ quand les gens disent de nous « il y a quelque chose d'inexplicable ici ». J'ai entendu plusieurs fois de notre Église qu'il y a un accueil et un amour inexplicable qui touche. C'est la présence de Dieu en nous. Et Dieu, il est glorifié au travers de cela. Tim Keller, il prend l'image du buisson ardent pour illustrer ça. Moïse gardait le troupeau de son beau-père au désert, à la montagne de Dieu. Et puis, à un moment donné, son attention est attirée par un buisson qui brûle, ce qui n'était pas forcément une chose étonnante, ça pouvait arriver dans le désert. Mais son regard est insistant et il est attiré parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Il y a ce buisson qui brûle, mais ce buisson ne se consume pas. Alors, il décide de s'approcher pour voir. Il y a quelque chose d'inexplicable qui se produit. C'est impossible et pourtant c'est là, c'est face à lui. Et bien c'est ça, glorifier Jésus, quand quelque chose d'inexplicable se produit. Les disciples, ils étaient dans la chambre haute quand le Saint-Esprit leur fut donné sous la forme d'une flamme de feu qui est venue sur eux, le Saint-Esprit. Et Jésus, quelque part, il nous appelle à être ces buissons ardents qui brûlent et qui ne se consument pas dans le monde. Les gens, quand ils nous voient, doivent se dire « mais il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose d'inexplicable ». Et ils viennent, ils veulent voir, ils sont attirés. Et vraiment, je nous encourage à prier pour que Dieu y rende notre témoignage inexplicable, pour que beaucoup soient attirés et que beaucoup viennent à lui. Donc l'Église, elle glorifie Dieu. Et l'Église, c'est aussi une communauté de personnes, une communauté de gens qui ont été pardonnés. Au verset 6, il nous dit « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Il n'y a rien qui vous choque ? Je relis le verset. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Comment est-ce que Jésus peut dire ça de ses disciples ? On en a parlé plus haut, hein, juste avant, ils étaient loin d'être parfaits. Alors quand Jésus prie le Père et qu'il dit « ils ont gardé ta parole, ils ont obéi à ta parole », il est plutôt sympa. Et plus loin, si on lit le texte, Jésus est à Gethsémané, et alors qu'il est sur le point de sacrifier sa vie, il va demander à ses disciples de veiller et prier avec lui, à plusieurs reprises, hein, mais eux, ils vont cesser de s'endormir. Et Jésus dira « l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Il voit les efforts qui sont déployés. Il voit l'intention et il retient ça, car il sait que notre chair est faible. Et c'est lui qui vient vers nous, par la croix, par son sacrifice ultime, pour que notre péché soit couvert. Oui, notre péché, il compte. Oui, notre péché, il a un prix. Regardez ce que ça lui a coûté. L'Église, c'est une communauté d'hommes et de femmes pardonnés. Et Jésus nous appelle à faire de même, à faire comme lui. Et donc ça veut dire qu'on ne doit pas se juger les uns les autres. On ne doit pas se critiquer les uns les autres. On ne doit pas condamner le monde, mais on doit chercher à lui faire connaître l'amour de Dieu. C'était le ministère de Jésus quand il était sur cette terre. Et c'est ce à quoi il nous appelle. Quand il nous dit « je vous envoie dans ma mission ». Nous sommes une communauté de pardonnés. Nous sommes des hommes et des femmes pour lesquels Jésus a payé un prix extraordinaire, sa vie, pour nous rendre capables, pour nous rendre libres de faire des efforts. Loin d'être parfait, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on entre dans la mission et qu'on fasse ce que Dieu nous demande de faire. Et le but ultime de l'Église, c'est que Dieu veut remplir la terre de sa gloire. Le Père recherche des adorateurs qui le loueront en esprit et en vérité, où qu'ils soient, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque nation. La mission de l'Église, c'est de remplir la terre de disciples de Jésus, pour qu'il y ait tout autour du monde des hommes et des femmes qui vivent pour faire briller la gloire de Dieu en suivant l'enseignement de Jésus. C'est une grâce et c'est un privilège de faire partie de son plan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment une grâce et un privilège. Dieu, il patiente. Il patiente son jugement, parce que le jugement viendra. Jésus reviendra. Et il y aura un temps où Dieu viendra juger la terre. Mais Dieu patiente. Et en attendant, il nous a envoyés. Il nous a dit, je m'en vais, mais vous, vous restez là. Vous restez sur cette terre. Et je veux que vous restiez sur cette terre. Parce que je veux que vous y alliez, que vous vous y infiltrez, que vous me glorifiez. Que vous reflétiez ma gloire. C'est comme une vague, une ola, vous savez, dans un stade. Elle commence à s'élancer. Je dirais, elle a commencé à s'élancer quand une poignée de disciples a été envoyée par Jésus dans le monde. Et depuis, elle ne cesse de grandir. Avec tous les croyants, tous ceux qui se tournent vers Jésus, elle ne cesse de grandir et on en fait partie. John Piper, il a dit, la mission n'est pas le but ultime de l'Église. La louange est le but ultime. La mission, elle n'existe que parce que Dieu recherche des adorateurs. Et le but de la mission est de permettre au peuple de la terre de se réjouir dans la grandeur et la gloire de Dieu. Et ce psaume qui dit « Les peuples te célèbrent, ô Dieu. Tous les peuples te célèbrent, les foules se réjouissent et triomphent. » C'est le psaume 67, les versets 4 et 5. Donc l'Église, elle est au cœur du plan de Dieu. Elle n'est pas optionnelle. L'Église, elle est sanctifiée. L'Église, elle est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. L'Église, elle est unie en Dieu. L'Église, elle glorifie Jésus. Et l'Église, c'est une communauté de pardonnés. Et le but ultime de l'Église, c'est que Dieu veut remplir la terre de sa gloire. C'est d'aller vers les autres, c'est d'aller dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque nation, faire des disciples, rayonner la gloire de Dieu, être différent, parce que nous sommes différents, parce que nous appartenons à Dieu. Vous, vous ne appartenez plus à vous-même, vous appartenez à Dieu, et Dieu nous invite dans cette mission. Amen. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Je vais prier. Merci Seigneur pour ton cœur pour nous. Merci pour ces mots que tu as priés au Père pour nous, pour tes disciples, pour les disciples qui croiront dans les paroles des premiers disciples, pour nous tous Seigneur, l'Église. Merci parce qu'elle a une place particulière dans ton cœur, Seigneur. Merci parce qu'elle fait partie de ton plan. Tu es monté et tu l'as laissé sur cette terre pour continuer l'œuvre que tu as commencée. Et nous voulons être cette Église, Seigneur, cette communauté de pardonnés, cette Église sanctifiée par toi, cette Église unie en toi. Nous voulons être cette Église qui te glorifie. Nous voulons être cette Église qui... pour les gens qui nous entourent, pour le monde, est inexplicable. Parce qu'elle est accompagnée de ta gloire, elle est accompagnée de ton royaume. De choses extraordinaires, parce que tu es un Dieu extraordinaire. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Merci parce que tu nous as envoyé ton esprit. Et c'est ton esprit en nous qui agit au travers de nous. Et qui nous rend capables. Aide-nous à à marcher à ta suite. Aide-nous à renoncer à nos propres vies et accepter que nos vies t'appartiennent dans chaque domaine de nos vies. Et merci parce que si on a laissé certains domaines de nos vies être emportés par l'esprit du monde, si on vient à toi et qu'on te demande pardon, tu es là pour nous pardonner, tu es là pour nous libérer, pour nous délivrer. Parce que tu nous aimes, parce que tu nous connais. Et malgré nos manquements, malgré nos défauts, tu pries pour nous. Et tu dis que nous avons gardé ta parole. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Père. Merci de nous unir en toi. À toi la gloire, Seigneur. Aide-nous à faire de cette ville, des villes qui nous entourent, de ce pays, de ces nations, des disciples, Seigneur, pour que la gloire monte vers toi, Seigneur. Amen.